Chapitre 87. Chaque marche qu'ils descendent les éloigne un peu plus de ce qu'ils connaissent. L'escalier secret qui, dans une atmosphère suspendue, s'enfonce vers un silence éternel, laisse présager un rendez-vous avec l'histoire. Au seuil de la crypte, l'historien, le théologien et les deux cochers choisis par Addison s'immobilisent et restent bouche bée. On les dirait tout à coup pétrifiés. Même les érudits n'avaient jamais rien contemplé de tel. Vincent fait signe aux deux hommes. « S'il vous plaît, déposez le matériel au pied du puits et placez les lanternes sur la margelle. Quoi que vous entrepreniez, tenez les lampes éloignées des murs pour ne pas risquer d'enflammer le salpêtre. » Vincent se décharge de son équipement pendant que déjà l'historien approche des sarcophages. « Fascinant, proprement étourdissant. » Addison lui tend des gants de coton blanc. « Enfilez ceci et ne déplacez rien sans consulter notre spécialiste des pièges. » L'homme au monocle glisse ses mains dans les gants de tissu. Le théologien, lui, s'attarde sur les arcs d'ogive et la croix pâtée qui les réunit à l'aplomb du puits. « Une symbolique vous apparaît-elle dans ce lieu, mon père ?» demande Vincent. « 42 marches pour descendre, 13 sarcophages, sans le moindre attribut religieux, un puits et la croix du temple qui domine l'ensemble. Si un sens se cache dans ce surprenant agencement, j'avoue qu'il m'échappe pour l'instant. » Vincent ouvre son col de chemise et dégage la clé boussole suspendue à une cordelette autour de son cou. La tenant comme un pendule, il la promène dans la salle. Il avance avec une lenteur extrême, à l'affût du moindre frémissement, du plus petit changement d'orientation. Il passe au plus près des parois et des sépultures, mais la clé ne réagit pas. L'un des hommes se penche au-dessus du puits avec une lanterne. Le halo lumineux n'est pas suffisant pour en éclairer le fond. Il ramasse un caillou et le jette dedans, sous le regard curieux de son collègue. Il leur faut attendre quelques secondes avant d'entendre un écho lointain. « Dans un puits si ancien, l'eau est certainement croupie, » commande-t-il. Prenant des notes sur des feuillets qu'il a tirés de sa soutane, le théologien s'affaire déjà à relever les inscriptions gravées sur les bords des couvercles. Debout à ses côtés, l'historien explique. Les sépultures sont à l'évidence liées par leur style. Chaque fois, une bordure de texte entourant une scène sculptée. La technique en creux est identique, tout comme l'importance donnée au personnage dans l'image. Je trouve cependant surprenant que ces cadres ne se focalisent pas sur un seul individu par tombe, comme si celui qui y est inhumé n'était pas le principal sujet. Cela me surprend aussi, approuve le religieux. Ces tombes constituent manifestement un message visuel. Elles se complètent, comme les vitraux d'une église ou les panneaux d'une tapisserie, pour raconter une sorte d'histoire, mais laquelle ? Aucune scène de bataille, commente Addison, aucun fait d'armes glorieux, mais de simples rencontres. On dirait parfois que les hommes représentés s'offrent des objets. L'historien ajuste son monocle et réagit. Et si ce qui compte n'était pas au premier plan ? Avez-vous remarqué ? Les éléments de décor semblent inspirés de régions du monde différentes. Peut-être ces sarcophages évoquent-ils des voyages ? Il pointe une scène. Sur celle-ci, on devine des lignes typiques d'une architecture asiatique, très inattendue sur une tombe médiévale européenne. Et sur cette autre, si je ne craignais pas l'aberration historique, je me risquerais à reconnaître des monuments du sud de l'Amérique. À première vue, fait remarquer le théologien, les dates gravées sur les pourtours se situent toutes entre 1220 et 1305. L'historien reste songeur. l'apogée de l'ordre du Temple. Il était alors tout puissant. Mais si... L'homme s'interrompt, tétanisé. Vincent l'a senti lui aussi. Un très léger tremblement du sol. Il interroge ses autres compagnons du regard. Tous hochent la tête. Plus personne n'ose bouger. Cavel s'accroupit et plaque ses paumes sur les dalles. La dernière fois qu'il a été confronté à ce genre de phénomène, le sol s'est rapidement dérobé sous ses pieds, provoquant l'une de ses plus belles paniques. Il ne se laissera pas surprendre une seconde fois. Si j'en donne le signal, vous quittez tous cette salle au plus vite en rejoignant l'escalier. Un piège se serait-il déclenché ? Demande le théologien, très pâle. Venant de ceux qui ont imaginé ces lieux, je m'attends à tout. Une seconde vibration parcourt les structures. Vincent se relève et s'adresse aux deux cochers. Que l'un de vous surveille la voûte. À la chute du moindre grain de poussière, prévenez-moi. L'autre ira se positionner sur l'escalier pour se préparer à évacuer nos aînés. Un nouveau choc sourd, étouffé. Brusquement, le théologien se raidit, la bouche ouverte, les yeux exorbités par la terreur. Incapable d'émettre autre chose que des sons octés, il fixe quelque chose derrière Addison. « Mon père, que vous arrive-t-il ? » s'inquiète celui-ci. D'un index tremblant, le religieux désigne un des sarcophages. Encore un impact. Charles découvre alors ce qui épouvante son compagnon. L'effroi le gagne à son tour. Le couvercle du sarcophage central vient de se déceler. Il s'entr'ouvre, et le bruit semble venir de l'intérieur. Sans lâcher la tombe des yeux, Addison appelle d'une voix étranglée, « Vincent, regardez !» Tous les regards convergent vers la sépulture alors qu'une nouvelle secousse l'ouvre davantage. Se mordant les lèvres, l'historien demande à la ronde, « Croyez-vous aux revenants ?»« Voilà quelques jours, souffle Vincent, j'aurais répondu non. » L'homme, posté au pied de l'escalier, étouffe un cri et s'enfuit, remontant les marches quatre à quatre. Son comparse jette des coups d'œil affolés du sarcophage à la sortie, hésitant à le suivre. La manifestation se répète, comme si l'occupant de la tombe dressée était en train d'ouvrir lui-même sa dernière demeure pour s'en extraire. L'historien tombe à genoux et joint les mains. Pitié pour nos âmes, nous avons profané ce lieu, nous avons réveillé la colère des morts, nous sommes maudits. Cavel fait signe au cocher de relever l'homme de science qui a perdu tous ses moyens et oscille d'avant en arrière en balbutiant. Une nouvelle vibration décale la pierre. L'interstice s'est encore élargi. Vincent empoigne une lanterne. Tout en se maintenant à une distance prudente, il s'avance pour tenter de scruter l'intérieur du sarcophage. Mais il est encore trop loin. Il doit se risquer plus près. L'angoisse aux tripes, il soulève sa lanterne et plisse les yeux, incrédule. Il s'attendait à voir un squelette, sans doute recouvert de son bouclier et vêtu d'une cotte de maille. Il envisageait même de découvrir le défunt brandissant une épée vengeresse. Mais il ne distingue rien, strictement rien. Il fait un pas supplémentaire. Une nouvelle secousse découvre davantage le cercueil de pierre. Cette fois, le doute n'est plus possible. Il est vide. Cavel fronce les sourcils. Non seulement le tombeau ne contient aucune dépouille, mais il n'a pas de fond. Vincent se trouve face à l'ouverture béante d'un souterrain.